Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de 9 mètres carrés, ce podcast qui ressemble à une colloque en débat à 3h du matin un samedi soir. Aujourd'hui, je suis avec Esteban qui est de retour.
Salut Laura, salut Clémence.
Et Clémence, du coup.
Salut à tous.
Je crois qu'on ne t'avait pas donné de surnom la dernière fois. Toi, Esteban, c'est l'artisan d'un doux cynisme. Et toi, Clémence, parce qu'il y a... on avait pensé à l'enragé avec Esteban, l'enragé de la vie.
Ou la maman bobo.
La maman bobo.
Ah ben, c'est à vous de choisir, hein.
Bon, je sais pas.
Bah, on va demander à nos auditeurs.
Ouais, on va faire un sondage pour la prochaine fois. Voilà. Et donc, pour ce troisième épisode, on a un thème qui peut paraître un peu étrange au premier abord, c'est utopie concrète. Oui, un peu étrange parce qu'une utopie, par définition, c'est un peu irréaliste, n'est-ce pas, Esteban ?
C'est totalement irréaliste, sinon c'est plus une utopie.
Voilà.
C'est un fantasme.
Mais on aime bien, ici, à 9 mètres carrés, s'amuser avec les mots. Et vu qu'on est des étudiants pleins de rêves et positifs, eh ben, on s'est dit qu'il existait sûrement des utopies réalisables. Alors, sur Facebook, on pourra souvent lire en légende de photo « C'était impossible, mais ils l'ont fait ». Quelqu'un a une meilleure citation de légende de photo ?
Il y a Victor Hugo, il y a Baudelaire pendant nos années lycée où on mettait ce genre de citations. Mais niveau des utopies, non.
Et toi, Clémence ?
Utopie. Mais moi, je ne sais pas pourquoi on parle d'irréalisable. Moi, utopie, j'attends toujours à ce qu'elle se réalise.
Et bien, justement, aujourd'hui...
C'est ton côté bobo.
Je crois que ça te va bien. Et bien, aujourd'hui, justement, Clémence, tu as raison. Parce qu'on va parler des utopies qui se réalisent. Et je crois qu'on en a trouvé pas mal. Mais tout d'abord, de quelles utopies va-t-on parler ? On a un peu potassé sur le sujet. Et on s'est dit cette belle et grande phrase dans 9 mètres carrés. Chaque société reproduit un modèle et se réfère au héros qui la constitue. Oui, donc notre génération a un modèle. Pour moi, c'est l'ultra-communication, avec les réseaux sociaux, etc. Pour toi, Clémence, qu'est-ce que ça pourrait être le modèle de notre génération ?
Moi, je m'inspirais beaucoup, quand j'étais plus jeune, de femmes, par exemple, tu vois. Et j'aimais bien lire les biographies. Donc j'avais toujours une biographie de quelqu'un à côté de moi pour lire. Donc c'était Frida Kahlo, c'était Janis Joplin... Je me suis beaucoup inspirée de ça.
Bon, modèle-là.
Ouais, de ce modèle-là.
Et toi, Esteban ?
Je suis un peu plus traditionnaliste dans l'idée de l'individualisation, l'individualité, avec des gens comme Lucchini. Pour le coup, Lucchini, c'est une sorte de héros, il prend un modèle qui... ça forme une jeunesse, philosophie. Bah oui, c'est un poète, c'est un artiste.
Merci, Esteban. Aujourd'hui, nous, étudiants en galère, nous allons nous poser des questions pour comprendre si les utopies concrètes existent. Serais-je patronne ? Est-ce que les femmes réussiront à accéder un jour à des postes de direction, notamment dans le domaine du numérique ? Nous recevrons Nina Daboussi du cabinet de recrutement Talent & Trust. Serais-je heureux à l'école ? Clémence nous racontera les initiatives pédagogiques aussi bien à l'école que dans les universités et on verra que c'est bien contrasté. Qui m'influencera ? Qui me remplacera ? Esteban nous fera bien peur avec l'intelligence artificielle. Serais-je un jour une héroïne ? Camille et moi-même nous sommes rendus au Salon du Livre Jeunesse pour connaître nos héros de demain et nous aurons la chance d'accueillir Laurane Safou, auteur du livre Comme un million de papillons noirs. Serais-je écolo ? Notre enragé de l'écologie Clémence a rencontré à la recyclerie Julien Vidal, auteur du blog et du livre Ça commence par moi. Et enfin, Esteban clôturera en beauté par cette question : qui décidera de qui deviendrai-je ? Bienvenue dans 9 mètres carrés. Notre modèle utopique pour demain s'introduit par une question. Serais-je patronne ? Alors pour commencer, vous faisiez quoi le samedi 24 novembre ? Esteban, Clémence ?
Et moi j'étais à la marche.
Ouais. Ouais. Et toi Esteban, tu restais chez toi ?
Un gilet jaune, j'étais un gilet jaune.
Et ben moi comme Clémence, j'étais dans la rue et je marchais avec mon copain durant la manif contre les violences faites aux femmes. C'est non, non et non à la violence et nous toutes on hurlait dans la rue. Alors vous me direz pourquoi je parle de violence et d'être patronne, le rapport zéro. Eh bien si, quand on dit violence, on dit toute forme de violence, pas seulement physique mais aussi morale, pas seulement des mots mais aussi des rôles. Car oui, c'est une violence quand on voit les disparités hommes-femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est une forme de violence que les femmes soient rejetées dans les postes de direction, de décision. Alors mon utopie à moi, c'est serais-je patronne demain ? Vous me direz, bah, c'est pas compliqué, il faut l'âme d'un entrepreneur avec des mantras éparpillés dans ma chambre de 10 mètres carrés. You go girl, rien n'est impossible, step by step, on y arrive. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Alors j'ai voulu qu'on m'explique, qu'on me prouve que c'était possible et que ce n'était pas juste une utopie, mais un avenir bel et bien possible. Alors aujourd'hui, nous accueillons Nina Daboussi sur le plateau. Bienvenue Nina.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors, si tu es avec nous, c'est que tu travailles au sein du cabinet de recrutement Talent & Trust qui a créé un programme, Women & Trust, destiné à promouvoir l'intégration et la valorisation des femmes dans les métiers du numérique. Et donc, ma question, c'est concrètement, avec des guillemets, en quoi ça consiste ?
Alors, moi, au sein de Women & Trust, je suis chargée de communication et chargée de projet. Donc, c'est moi qui partage tout ce qui est fait au sein du programme sur les réseaux sociaux et qui contacte aussi de nouvelles entreprises qui pourraient être intéressées par le programme et qui ont aussi besoin, en fait, de ce programme. Women & Trust, c'est une initiative qui a été lancée il y a un peu moins d'un an maintenant par Talent & Trust, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans les hauts postes, les postes de direction, les postes de haut cadre des entreprises du numérique. Et Women & Trust a deux volets. D'un côté, c'est accompagner les entreprises dans la féminisation de leurs effectifs. Et de l'autre côté, accompagner les femmes qui ont envie de progresser dans leur carrière, qui ont un peu de mal avec ça, ou bien des femmes qui n'ont rien à voir avec le secteur du numérique, mais qui ont envie de saisir une opportunité dans ce secteur-là, de les coacher, de les accompagner dans le processus de recrutement.
Moi, j'aimerais quand même savoir pourquoi on dit que le numérique, c'est un domaine d'hommes.
Très bonne question. En fait, le numérique, ça n'a pas toujours été un domaine d'hommes, c'est devenu un domaine d'hommes. À la base, dans le numérique, quand on regarde en fait, l'histoire de ce domaine qui est finalement très récent, il y a eu de nombreux exemples de femmes qui ont vraiment participé à construire la discipline. Par exemple, le premier code informatique, il a été créé par Ada Lovelace, qui est une femme. Okay. Le Wi-Fi, ça a été créé par Hedy Lamarr, qui était... accessoirement à côté d'être une grande inventrice, actrice hollywoodienne. Et on connaît par exemple le code Enigma durant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, le code Enigma, derrière Alan Turing, il y avait Joanne Clark. Donc il n'était pas seul.
D'accord.
Mais.
On a médiatisé les hommes, quoi.
Tout à fait. On a médiatisé les hommes et ça a grandement participé à la disparition des femmes. En 1984, il y a des études aux États-Unis qui montrent qu'en 1984, en fait, les femmes étaient 37% des étudiantes en informatique et aujourd'hui, elles sont 18% seulement.
Ah oui.
Pourquoi est-ce qu'elles sont, pourquoi elles sont parties de ce domaine-là ? Et quand je dis 37% en 1984, elles étaient dans les mêmes proportions dans les autres matières scientifiques, en médecine, en sciences, en médecine, en physique, en ingénierie. Elles sont parties parce qu'en 1981, il y a les premiers ordinateurs personnels qui ont été commercialisés sur le marché. En 1981, c'est le premier ordinateur personnel lancé par IBM. Et pour lancer en fait, ces nouveaux outils numériques et les faire rentrer chez les gens, puisque c'était la première fois que les gens ramenaient du numérique pur et dur chez eux, IBM et les autres entreprises ont choisi de le marketer comme un jouet pour garçons. Et dans toutes les publicités, l'ordinateur était montré comme un jouet pour garçons et donc il a investi les chambres des petits garçons et pas les chambres des petites filles. Parce que les parents, à Noël, quand ils offraient en fait, un PC, ils l'ont mis dans la chambre de leur garçon. Et du coup, c'est à partir des années 80 et quelques années plus tard qu'on voit que toutes ces jeunes filles qui ont grandi en voyant que l'ordinateur appartenait à leur petit frère ou à leur grand frère, elles se sont détournées des filières du numérique. Et c'est comme ça qu'on en vient aujourd'hui à des femmes beaucoup moins présentes.
Et alors, comment est-ce qu'on convainc une entreprise, en fait, d'expliquer que ce que tu fais avec Women & Trust, c'est pas juste une histoire de quotas ?
Ouais. Alors ça, c'est les questions de minorité, que ce soit genrée ou bien d'origine ethnique. C'est assez difficile en France, en fait, de parler de ces sujets-là et de faire avancer les entreprises sur ce domaine-là parce que les quotas et la discrimination positive sont interdits, sauf pour certains domaines. Comme le handicap, ça, il y a des quotas qui sont obligatoires, mais dans les autres domaines, c'est interdit. Du coup, en fait, on essaie de les convaincre en leur montrant qu'elles n'ont pas le choix. Parce que d'ici à 2020, en Europe, on estime qu'il y aura 500 000 postes vacants dans le numérique. C'est énorme. Et la France, au sein de l'Union européenne, ce sera le quatrième pays le plus touché. Si on ne change rien aujourd'hui, en 2020, il y aura 80 000 postes vacants dans le numérique
énorme,
en France.
Ouais.
Ouais, ce qui est énorme. Et du coup, comme c'est un secteur extrêmement porteur, si aujourd'hui les entreprises du numérique ne prennent pas les femmes dans leur rang, ne se mobilisent pas pour les inciter à venir travailler chez elles, en fait, elles seront vraiment en déficit au niveau de leur compétitivité au niveau international. Et donc, on les convainc à ce niveau-là et on leur montre aussi qu'une fois qu'on fait rentrer quelques femmes à des postes clés, donc sur les hauts cadres,
oui, de direction,
voilà, sur les postes de direction, c'est des femmes qui agissent comme des modèles et qui attirent d'autres femmes. Parce que en investissant sur quelques profils, l'entreprise, elle renvoie une image beaucoup plus globale à d'autres femmes et leur donne envie, en fait, de venir travailler pour elles.
Ce qui n'est pas pareil que chargé de, là, on est vraiment dans des postes de direction.
Ouais, parce que en fait, aujourd'hui, la France, mais globalement tout le monde, est conscient qu'il y a un gros souci au niveau de la féminisation du numérique. Et l'État s'est emparé de ce sujet, des associations se sont emparées de ce sujet, et certaines entreprises se sont emparées de ce sujet aussi. Mais généralement, toutes ces institutions agissent sur seulement deux niveaux. Soit au niveau des écoles d'ingénieurs et des jeunes filles dès le collège, dès qu'il y a une spécialisation vers une matière ou vers une autre. Il y a de nombreuses associations qui agissent en encourageant les jeunes filles à se tourner vers des carrières du numérique. Mais ça aura un effet dans...
Mais sur le long
voilà,
terme.
Voilà, sur le long terme, c'est pas un effet tout de suite. Et même s'il y a des entreprises qui, aujourd'hui, se fixent des quotas, par exemple, dans tous nos recrutements, on veut avoir au moins 30% de femmes, ça n'a pas un impact très fort sur la culture d'entreprise en général. Il y a d'autres entreprises qui, de l'autre côté, en fait, recrutent des dirigeantes au sein des comités exécutifs ou bien des conseils d'administration, même si bon, ça, elles y sont obligées. Mais ça, pareil, ça n'a pas un impact très, très fort sur la culture d'entreprise.
Et comment vous faites pour les accompagner ?
Ouais,
c'est le plus important parce que, ouais. C'est l'action que l'entreprise dans laquelle tu es fait.
Ouais.
C'est quoi vos outils ? Vos leviers ?
Alors, en fait, une fois qu'une entreprise s'est dit « Ok, on va s'emparer de ce sujet-là », nous, on a besoin d'une partie, surtout de l'équipe de ressources humaines, que de au moins deux ou trois personnes qui soient motivées par le projet, qui se disent « Ok, j'ai envie d'agir pour ça », et qui soient d'accord pour modifier leur technique de recrutement. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles recrutent, c'est sur des logiques de court terme. Elles ont besoin d'une personne avec telle compétence à un moment T. Nous, on leur dit « Ok, mais pensez plus loin ». Là, par exemple, vous avez une femme qui n'a pas toutes les compétences que vous voulez parce qu'elle vient d'un autre secteur que le numérique ou bien elle n'a pas eu forcément les bonnes formations. Acceptez de la prendre et accompagnez-la, formez-la et vous allez voir que ça va être un bénéfice sur le long terme et pas seulement une logique de court terme. Et pour faire ça, en fait, on fait des formations de déconstruction des biais genrés qui agissent sur le recrutement. Donc, c'est des formations qui sont destinées aux équipes au sein de l'entreprise, aux équipes de ressources humaines. Et aussi, il y a un système de mentorat, enfin de mentoring.
Vous êtes vraiment dans les deux côtés du système du processus de recrutement. Donc vous êtes dans les entreprises pour leur dire qu'il va falloir développer leur manière d'appréhender le recrutement, donc de la parité et de la féminisation. Et à côté de ça, vous êtes dans le coaching donc des postulantes
ouais.
pour... D'accord, c'est très bien.
Ouais. Et les résultats, en fait, ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse, ouais. de voir, ça fait combien de temps que ça a été
Alors,
créé
ça fait un peu moins d'un an.
Ouais.
Donc, c'est une durée qui est très courte, mais qui a un bilan qui est très positif pour nous. On est en contact, il y a plusieurs entreprises qui ont accepté de collaborer et qui se sont dit que c'était vraiment une bonne opportunité, Women and Trust, pour elles. On a notamment Capgemini ou BNP Paribas. Et de l'autre côté,
grosses entreprises,
ouais, ça pour les gens qui ne sont pas forcément familiers ou familières avec les domaines du recrutement à ces postes-là, ça va vous paraître très peu. Mais en fait, on a au moins 4 gros postes qui ont été recrutés, enfin 4 femmes à des hauts postes qui ont été recrutées à travers Women and Trust.
Super.
En fait, ça paraît peu, mais des postes de direction, de haut management, c'est des postes qui mettent vraiment des mois et des
Bien
mois.
Sûr.
C'est des processus de recrutement qui sont très longs. Et donc pour nous, c'est une vraie réussite. Et on espère que ça ira toujours plus loin. Et en fait, on a besoin finalement que les entreprises s'emparent de ce sujet-là. Et c'est là où c'est difficile pour nous, des fois, parce qu'en fait, on arrive avec quelque chose qui peut leur apparaître comme une contrainte. Elles n'ont pas forcément besoin de recruter à ce moment-là ou elles ont envie voilà, de recruter vraiment dans la vitesse, le plus vite possible, quelqu'un de 100% compétent. Et c'est difficile des fois de se placer à ce niveau-là.
Il vous a fait exploser le plafond de verre quand même. Donc c'est le plus important.
On essaye.
Bah, super Nina, en tout cas, merci beaucoup de nous prouver que le mot utopie dans ce secteur, il est dépassé et qu'on va enfin arriver à une réalité... Je serai patronne, Clément sera patronne.
Ah, Stéphane, ça va, sera patronne.
Tu peux déjà être patron.
Super Nina, merci beaucoup d'être venue sur 9 mètres carrés.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Serais-je heureux à l'école ? On va commencer par un sondage pas très dur à effectuer autour de la table. Alors Clémence, Esteban, êtes-vous heureux d'apprendre ? Clémence ?
Moi, je suis très heureuse et j'ai peur d'arrêter d'apprendre.
Peur d'arrêter d'apprendre ?
Ouais, j'ai peur d'arrêter, commencer à travailler, d'arrêter de me cultiver. J'ai peur, moi j'adore apprendre.
Et toi Esteban, ouais.
Il y a une phrase, je ne sais pas, je ne connais plus du tout la personne qui l'a dit, mais apprendre, ça s'apprend. Et
petit
comme côté on n'est pas femme, on devient merci.
Non, mais vraiment, apprendre, ça s'apprend. Enfin, c'est plus on apprend et plus on a envie d'apprendre.
Mais t'aimes ça ?
Mais bien sûr, mais ouais. On apprend à aimer aussi.
Tout à fait.
C'est ça qui est...
Et on n'a jamais fini d'apprendre.
Et on n'a jamais fini
on n'a jamais fini.
Alors Clémence, donc toi, tu t'es posé cette question et tu as pas mal de choses à nous dire, je crois.
Eh oui, et si ce n'était plus une corvée d'aller à l'école ou à la fac, s'il y avait un sens à se lever de son lit, de la maternelle aux études supérieures, quand va-t-on faire de ce lieu un endroit où chacun a sa place et où peut construire son propre chemin ? Si les enfants sont les adultes de demain, si nous sommes les adultes de demain, c'est à travers la jeunesse que les changements s'opèrent. Donc je vais vous parler d'utopies qui se transforment en initiatives et qui deviennent de beaux projets. Donc je vous propose de faire un petit tour du monde des nouvelles méthodes d'apprentissage, méthodes progressistes, parfois même révolutionnaires.
C'est parti.
Je sais qu'en France, bon, on a un peu la culture du diplôme, mais contrairement à nous, les pays scandinaves, ils poussent les élèves après le bac à faire une année sabbatique, un gap year. C'est en fait un passage obligatoire pour ne pas prendre de décisions trop hâtives dans le choix de ses études et dans les choix de sa vie tout court. Et on rentre avec une maturité, des idées réfléchies et posées et une ouverture d'esprit pour entreprendre son avenir. En France, bon, on n'est pas en reste non plus, hein, je critique, mais on a le Green Tech Campus Challenge, donc c'est 18 projets innovants pour des campus plus verts et plus ouverts. Donc de Rouen à Montpellier, du Havre à Lyon, en passant par Rennes, 222 étudiants issus de 47 établissements d'enseignement supérieur ont proposé des idées concrètes pour rendre leur campus plus durable. Donc ben, y a plusieurs idées, il y en a plein, et par exemple, il y a développé une application pour smartphone qui propose des parcours sportifs personnalisables autour de la ville. Et on peut aussi récolter des bouchons en plastique pour faire fonctionner une imprimante 3D sur le campus ou utiliser un moulin à eau, carrément, ouais, même un moulin à eau pour faire fonctionner une sono. Donc c'est vraiment des initiatives pour prendre le campus comme son espace de vie et faire de cet endroit le nôtre. Et d'ailleurs, dans les facs françaises, il y a plein de nouvelles méthodes. On peut être en cours sans y être maintenant. Hein. Je ne sais pas si vous savez, ça peut peut-être vous donner des idées.
Si j'ai déjà eu cette expérience.
Hein, tu vois, téléprésence immersive. À l'EM Lyon, par exemple, ils ont un robot de téléprésence. Alors, ça leur permet de suivre les cours à distance, par exemple, quand tu es malade, quand tu es hospitalisé, quand tu es absent. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve.
Plutôt pratique.
Ah ouais. Des boîtiers aussi de vote électronique dans les amphis. À l'UPMC, par exemple, donc c'est des quiz anonymes pour savoir, par exemple, si tu as bien compris le cours. Donc plus besoin de lever la main dans un amphi de 400 élèves.
Ouais.
De taper la honte,
voilà.
Donc tu peux faire ça anonymement. Ensuite, il y a des apparitions maintenant dans les universités. C'est des objectifs de Learning Labs. Donc c'est favoriser le développement pédagogique alternatif, de pédagogie alternative fondée sur l'interactivité et la créativité. Et ça passe en fait par des tables, des chaises sur roulettes, des grands murs écritoires ou des post-it électrostatiques. Et ça se fait dans les universités de Lyon, de Lille-3, de Bretagne aussi.
Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Uzima wa milele, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Uzima wa milele, uzima wa milele.
Alors pour les plus petits, des initiatives moins technologiques, là on va voyager un peu. Hein. Dans le sud de l'Inde, une école sur le bonheur a été créée avec des méditations avant chaque cours, des espaces pour favoriser la collectivité, des enseignants à l'écoute des besoins de l'enfant. Ça fait rêver, hein.
Ouais.
La méthode d'éducation positive, on la retrouve un peu partout maintenant, au Canada, c'est vraiment un truc qui se met en place pour les enfants. Au Rwanda également, il y a des cours de masculinité positive pour les petits garçons. Commencer très tôt à se libérer de leur pression sur le fait d'être un vrai homme et commencer à respecter son égal, les petites filles et puis plus tard les femmes. au Danemark, les enfants de maternelle font classe dans la forêt. Ça, j'ai trouvé ça génial.
Non, mais c'est, moi, à Paris, mon c'est rêve. Pas trop possible. Hein.
Non, à Paris, c'est pas. Dans le bois de Boulogne, tu rigoles. Ah, ouais. Moi, j'aurais adoré. Je m'avais dit, tu vas dans la forêt faire cours. Alors là. Donc, en fait, bah, c'est devenu traditionnel au Danemark. Okay. Et les créateurs de, de cette nouvelle méthode, ils disent que ça favorise l'imagination, l'indépendance. Moi, j'ai vu un reportage. Les gamins, ils ont un couteau. Ils coupent du bois. En même temps, ils apprennent à lire. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et plus récemment, en Finlande, le gouvernement veut supprimer les matières à partir du dernier cycle. Donc, au lycée, il n'y aura plus de matières, mais plus que des événements, des phénomènes étudiés dans plusieurs disciplines. Donc, l'élève, il aura le choix. Et donc, plus cette éternelle question de pourquoi on me demande d'apprendre ça, ça n'a aucun sens. Non, là, il y aura du sens qu'on aura donné nous-mêmes. Je finirai par vous parler de l'école démocratique de Paris. Alors là, rien qu'à la devanture, on sent la révolution. Hein. Des tags faits maison, multicolores. Ici, pas d'enseignants, pas de matières, pas de directeurs. 50 enfants de 4 à 18 ans qui sont libres de choisir ce qu'ils font. Dormir, jouer, regarder un film, s'initier à la guitare, faire de la cuisine, suivre un cours en ligne d'astronomie, apprendre le japonais, réviser son brevet. L'école démocratique de Paris, c'est pas un ovni, hein. C'est porté par quelques illuminés nostalgiques des utopies 68ardes. Il y a 37 écoles qui fonctionnent comme ça. C'est pas mal, hein, qui fonctionnent comme ça en France sur le même principe. Donc cette école, elle est dans le 14e arrondissement. Je vous conseille d'aller faire un tour. Et vous alors, vous avez dû, dans la fac, aller à la maternelle, à l'école primaire, des méthodes qui vous ont un peu, perturbées, qui étaient plus positives, différentes?
Bah, moi, je me rappelle d'une prof de français en seconde. De toute façon, on en a tous un prof qui est souvent français ou histoire, qui nous avait fait, on étudiait la biographie, qui nous avait fait un projet personnel avec un objet qui devait nous représenter devant toute la classe. On devait faire ça. C'est très intime. À 13-14 ans, quand on te demande...
C'est pas facile.
Mais ouais, c'est ça. Quelles sont tes faiblesses, ta vie, tes souffrances, tes blessures, tes aspirations devant toute une classe? 13-14 ans au lycée, c'est un peu la jungle. Donc, non, ça nous a rapprochés. J'ai trouvé ça exceptionnel.
Ma maman était maîtresse d'école maternelle. Et ce qui était super cool avec elle, c'est qu'elle était beaucoup dans le créatif. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir ma maman comme maîtresse. Et en fait,
j'ai
eu
ma grand-mère, moi aussi, maîtresse, voilà. Prof de CM2.
Et ce qui était cool, c'est que quand j'avais 5 ans, quand on avait des temps, c'est la maternelle, hein, des temps libres, elle me donnait une feuille et de la peinture et elle me disait, vas-y, éclate-toi, quoi. Et au début, on se dit toujours, oui, mais je sais pas dessiner, je sais pas comment faire, etc. Et elle me disait, mais non, mais éclate-toi. Et en fait, c'est comme ça que ça fait des formes très bizarres, c'était abstrait, c'était pas du Picasso du tout, mais en fait, ce qui était bien, c'est que j'ai pu m'exprimer, en fait. Et enfant, il commence à s'exprimer en révélant ce qu'il a à l'intérieur de lui et ça passe par les doigts. Et ça passe parce que tu vas mettre
exactement,
avec tes doigts sur la feuille.
Bien sûr,
moi, c'était cette méthode.
Sans recopier ou...
Il y a plein de trucs qui se mettent en
sans
place.
Modèle.
Moi, mon petit frère, par exemple, à la maternelle, là, il a des cours d'émotions. Et on apprend, il apprend les émotions. Il est tout petit, il a 3 ans. On apprend les émotions, la peur, la joie, la tristesse. Donc, je trouve ça génial.
Mais il faut, en fait, se développer personnellement. Ouais. L'apprentissage, il devient naturel quand l'enfant, il va bien, il se sent à l'écoute. Et ça passe par vraiment, comme tu dis, ce genre de méthode-là, la créativité. Et sans ça, en fait, si on ne met pas ça dans le scolaire, on n'arrivera jamais à... Moi, en cours, je ne pouvais pas apprendre par cœur quelque chose.
Ouais, moi non plus.
En mathématiques, j'avais soit 2, soit 18. C'était soit j'avais tout compris, soit rien.
J'ai abandonné
en CP
les maths. Moi, je n'ai pas continué.
Voilà. Et ça passe par cette pédagogie-là qui est importante, quoi. Esteban, c'est l'heure pour toi, c'est ton heure même, je dirais, de nous parler des utopies concrètes. Et je crois que tu vas nous parler d'utopies qui excitent en fait à l'idée qu'elles se réalisent, mais qui font en même temps très très peur.
Et qui terrifient, exactement.
Et la question c'est, qui m'influencera, qui me remplacera?
Exact. Et donc on va commencer par un premier extrait de Marguerite Duras.
Je crois que l'homme sera littéralement... noyé dans l'information. Dans une information constante. Sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout, dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. Et où sera-t-on, tandis qu'on regarde la télévision, où est-on? On n'est pas seul.
On n'est pas seul, cette phrase de Marguerite Duras. Ce qui est très beau dans cet extrait, c'est qu'elle arrive à créer une lenteur et une attente qu'on n'a plus aujourd'hui dans nos discussions, dans nos rapports, dans nos relations. Et je trouvais ça très exceptionnel. Et donc voilà, on n'est pas seul, disait Marguerite Duras en 85. Elle n'avait pas tort. Si l'information ou la pub était un corps, il serait présent partout. On le regarderait sous tous les angles. On le dévisagerait, ses expressions, ses actions, les différentes parties qui le composent. En soi, il n'y a ici qu'une présence passive qu'on regarde dans le métro, sur nos écrans, dans nos journaux, à la télévision, dans nos boutiques, dans les rues et sur les routes. Elles sont partout. Un corps inanimé qui a trouvé sa flamme. Puissante et inarrêtable. L'algorithme. Maintenant, le corps se déplace, s'actionne, en fonction de vos états et de vos aspirations et de vos recherches. Nous sommes des cibles commerciales qui se définissent dans tous les manuels d'économie par des consommateurs rationnels. Nos comportements sont analysés, monnayés ou encore échangés. On est loin du commercial qui sonnait à votre porte et posait son pied entre celle-ci et vous afin de ne pas qu'on lui referme à la tronche. Maintenant, le commercial rentre par la fenêtre, l'aération, Internet, la cheminée. Un vrai Père Noël de la publicité. L'éthique de l'agressivité de ces comportements n'a pas de fondateur. Il n'y a pas de Platon ou de Spinoza ou d'Hippocrate pour expliquer comment appréhender et comprendre l'intelligence numérique qui nous guette à la moindre faiblesse pour nous faire acheter quelque objet inutile. Parce que oui, ces adversaires n'ont pas de visage, mais ils ont un nom. C'est l'intelligence artificielle. Le fait de créer un comportement humain factice qui sera articulé par des algorithmes qui créeront eux-mêmes des algorithmes. Sans aucune limite. Écoutons Laurent Alexandre, reçu par Frédéric Taddeï, un philosophe et écrivain de l'intelligence artificielle.
Le transhumanisme, c'est un projet qui consiste à améliorer les êtres humains, à les augmenter. Alors, est-ce que c'est prométhéen, ça c'est sûr? Est-ce que c'est inédit? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut véritablement supprimer nos limites?
Alors, c'est un courant de pensée qui est déjà ancien, de vouloir supprimer tous les impossibles, toutes les limites de l'homme. De la Maîtrise, Condorcet, Pic de la Mirandole étaient déjà des gens qui imaginaient un futur dans lequel l'homme maîtriserait son destin. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, notamment la génétique, l'intelligence artificielle, l'informatique, la robotique, rendent possible la cassure de nos limites traditionnelles.
Donc c'est sérieux. Quand on parle transhumanisme, on est sérieux et même il faudrait être grave.
Grave, lourd, sérieux, pesant, l'intelligence artificielle comme ses algorithmes n'a pas de limite, comme ça a été très bien dit, que ce soit la médecine, avec les opérations exercées par le biais de robots contrôlés par un médecin à l'autre bout du monde, l'art par des tableaux peints avec des prérogatives intégrées dans un programme qui à l'aide d'un bras mécanique et d'un pinceau pourrait avoir la même technique qu'un Monet ou un De Vinci. Le sport, aller à la course à pied par des monstres mécaniques qui ne s'épuiseront jamais, jusqu'aux échecs, où des champions du monde comme Garry Kasparov ont été battus par Deep Blue, un programme. Les inventions culturelles ou de marchandises, les discussions numériques ou notre propre fonctionnement se feront-ils obligatoirement entre un individu et un autre ? Le programme qui nous conduira plus tard d'un point A à un point B sera-t-il le même que celui qui écrira un livre magnifique après avoir intégré les plus beaux chefs-d'œuvre littéraires pour s'en inspirer? Notre culte de l'homme et de sa connaissance se fendra-t-il pour laisser place à la lueur d'une faiblesse qui traduira notre avidité à toujours dépasser nos limites, créant un monstre qui en sera totalement dépourvu?
C'est poétique.
Je n'ai pas peur des ordinateurs, ni des virus exterminateurs. J'ai défoncé tellement de gladiateurs qu'ils ont disparu alors.
Alors, Laura et Clémence, quelle technologie vous fait le plus peur ou à l'inverse vous impressionne le plus ?
Alors moi, l'évolution de la technologie, ça me fait clairement flipper. Non, je vais pas vous mentir. Après, moi, je pense que c'est plutôt les réseaux sociaux qui me font un peu peur. Instagram, ça me fait peur. Et paradoxalement, j'adore, mais ça me fait très peur. Je pense que c'est le culte du moi qui me fait très peur. Tu vois, il n'y a plus de moment présent.
Donc, c'est pas la technologie qui te fait peur, c'est l'utilisation.
Mais c'est ça, de toute façon. Qu'est-ce qui fait peur ? C'est la façon dont on va se servir de tout ce qui va se passer. De toutes les avancées, c'est quoi qui fait peur ? C'est nous. C'est pas la technologie en elle-même qui fait peur. C'est ce qu'on va en faire.
C'est l'usage, ouais.
Mais le droit à l'utilisation, c'est ça qui est important dans les réseaux sociaux, par exemple. On peut, le droit de tout poster tout le temps, c'est une liberté. Donc c'est ça qui fait peur. C'est la liberté en soi qui fait peur.
Mais moi, je vois toujours quand j'entends, tu vois, on entend des utopies quand on a pensé l'émission tous ensemble. Moi, pour moi, une utopie, ça amène du meilleur. Et pour moi, là, ça amène trop de limites. Et du coup, j'arrive plus à le voir comme une utopie. Mais après, voilà, chacun sa définition,
ouais,
tu vois.
Je vois ce que tu veux dire. Enfin, après, je pense que c'est toujours partagé, en fait. La question pour toute problématique, c'est de tendre vers un équilibre. C'est que ce soit pas trop mal, et enfin que ce soit bien et mal, parce que en même temps, si c'est mal, ça va permettre d'aller mieux. Et moi, je dirais pas que j'ai peur en fait des nouvelles technologies, je suis plutôt impressionnée. Je te rejoins un peu, Clémence, là-dessus. Je suis impressionnée de ce qu'on en fait, et notamment tout ce qui est intelligence artificielle. On veut rendre l'homme l'être parfait. Et moi, ça m'impressionne parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'imperfection. Et je sais que ça va aider pour des maladies, pour tout un tas de choses, et on en a besoin. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de vouloir que tout le monde sache tout, en fait, d'être une encyclopédie vivante. Et il n'y a rien de mieux que... On parlait d'apprendre tout à l'heure. Enfin, il n'y a rien de mieux que de l'émerveillement quand tu apprends quelque chose et pas quand, en fait, dans ta tête, tu l'as déjà appris. Sinon, il y a un levier qui se fait pas.
Cette connaissance qui est en liberté, enfin qui est en accès total, mais pourtant quand tu regardes les 10 recherches Google, les 10 recherches les plus googlisées, t'es scandalisé. C'est un outil exceptionnel, c'est l'utilisation qui est un peu.
C'est l'utilisation, voilà. C'est pas la technologie qui me fait peur, c'est que nous, ce qu'on en fait, on veut être parfait, quoi.
C'est Heidegger qui disait que c'était la technique, c'est pas la technique en soi qui fait peur, c'est ce qu'on allait en faire.
C'est le technicien.
Exactement. Le technicien.
Ça s'est agité dans le studio quand on a entendu cette musique. Vous connaissiez ce générique.
Clément est en train de se rhabiller.
Non,
voilà.
Moi, je suis une grande fan. J'ai attendu des années avant que ça sorte au cinéma et tout. J'en pouvais plus.
Et bah, en fait, si ce générique, vous l'avez entendu, c'est parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec notre nouvelle question, car on aime bien se poser des questions depuis le début. Serais-je un jour une héroïne ? Voilà, depuis tout petit, on commence à apprendre en lisant des contes, des histoires, des beaux livres illustrés où s'entremêlent voyage, magie et surtout héros. Et les premières histoires qu'on lit sont celles qui nous construisent. Et moi, je vais vous parler d'un livre un peu particulier. Ça s'appelle « Comme un million de papillons noirs » de Laura Ansafou. C'est le premier livre pour enfants que je n'avais pas acheté depuis longtemps. Oui, parce que j'ai 20 ans, donc en général à 20 ans on n'achète pas des livres pour enfants, enfin bon, si on a un grand enfant, je sais pas. Mais bon, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre ? Eh bien c'est bien pour une question qu'on va aborder, mais d'abord moi j'aimerais savoir, vous deux, Esteban et Clémence, c'était quoi vos héros quand vous étiez petits ?
Quand j'étais petit...
Pas forcément dans la littérature, hein, vos héros...
Quand j'étais petit, ouais, vas-y.
Non, en règle générale, moi ça, c'était des personnages fantastiques... Charlie et la chocolaterie, par exemple, j'ai petit, mais ouais, c'était exceptionnel. Et quand le film est sorti, en plus, ouais. Qui est tellement délirant.
Roald Dahl, c'est.
Ouais, ouais. Mais ça a été vraiment une concrétisation, quoi.
Et toi, Clémence ?
Alors, moi, je te rassure, je lis des livres pour enfants, je suis animatrice.
Ah, donc... ouais, super, super. On est deux.
Que ça. Non, moi, quand j'étais petite, moi aussi, les mondes fantastiques, j'avais besoin de me créer un monde. Donc, tous les films de Tim Burton, j'étais une grande fan. Et je les ai vus très jeune, hein, donc j'adorais ça. Tout ce qui était sorcière.
Les Harry Potter, c'est.
Ah, ouais,
c'est
non, moi, Harry Potter, j'étais vraiment très, très fan.
Un plus autour du fantastique.
Ouais, au fantastique, ouais. Après, voilà, moi, très jeune, comme je disais tout à l'heure, j'ai les parcours de vie, même toute petite, j'ai commencé à m'intéresser.
Les histoires vraies. Mmh. Okay. Ouais. Des héros bien réels.
Bien réels, ouais.
On pourrait dire que toute civilisation a ses héros, et il s'agirait aujourd'hui de mettre en valeur les héros de demain pour que notre société soit un peu mieux construite. Bon, alors vous allez mieux comprendre avec ce reportage depuis le Salon du Livre Jeunesse à Montreuil.
Alors nous sommes le samedi 1er décembre et nous sommes à Montreuil avec Laura au Salon du Livre de la Jeunesse. Beaucoup d'enfants et parents étaient présents et de nombreux étalages de livres prenaient place dans ce lieu culturel. Nous avons rencontré une mère et son enfant qui nous parlent de leurs héros d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour madame, je vous demandais quel a été votre héros quand vous étiez plus jeune?
Alors, petite fille, c'était Fantomette. C'était une adolescente qui, à la nuit tombée, se transformait en super-héroïne. Voilà. Et un peu plus tard, ça a été Langelot. Donc, je sais pas, c'était en CM2, un truc comme ça. Et c'était un agent secret. C'était un héros de la Bibliothèque Verte.
Bah, j'adore Joris Semblant, il a fait Le Carnet de Cerises.
Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Quelle histoire ça compte? Quels sont les héros?
C'est une petite fille qui s'appelle Cerise et qui mène des enquêtes avec ses amis. Elle se rend compte, donc ces petites enquêtes, et on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'elle a des problèmes personnels et qu'elle essaie de se résoudre elle-même. Et c'est très touchant. Et puis elle a grandi avec moi, parce que quand elle avait 10 ans, je l'avais 10 ans, etc. Et forcément, je me suis attachée à ce personnage.
Et quel âge as-tu?
Aujourd'hui, j'ai 13 ans.
C'était quoi votre livre de chevet, vous, quand vous étiez petit? Le livre qui a été déchiré tellement vous l'avez lu?
Le Lion de Joseph Kessel. C'est un peu bateau.
Tu lisais ça quand t'avais quel âge?
Ah, mais moi, je lis ça à 12 ans, à 10 ans, 10 ans, un truc comme ça.
Précoce.
Ah, bah écoute, on peut pas sortir des citations. Non, mais Joseph Kessel, enfin, ce livre, on en pleure, quoi. On en pleure. Et Daniel Pénac aussi, c'est exceptionnel, ces bouquins.
Ah ouais,
pour les jeunes. C'est super.
Lui, il était enfant à 12
ouais,
ans.
Ouais, je crois. Ouais.
Toi, du coup, Clémence,
Moi, j'étais une grande fan de Disney. Donc, il y avait les livres de Disney. Il y avait Arc-en-Ciel, le petit poisson.
Bah oui. Ouais.
Je lisais Arc-en-Ciel. Je lisais, je sais plus, je lisais beaucoup Disney, moi.
Ouais, c'est bien. Ça qui est intéressant. Il y a aussi beaucoup sur les animaux. Moi, j'aimais bien Arc-en-Ciel, j'aimais bien aussi Elmer. Puis, il y avait plein d'histoires de la maison d'édition, l'école des loisirs, qui sont super
qui sont
pour
top,
les enfants.
Bien sûr.
Au Salon du Livre Jeunesse, une auteure réalise toute la semaine les dédicaces de son livre « Comme un million de papillons noirs ». Bonjour Laurane Safou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur 9 mètres carrés. Vous êtes au Salon du Livre Jeunesse à Montreuil pour la séance de dédicaces de votre livre « Comme un million de papillons noirs ». Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre héroïne Adé?
Alors Adé est une petite fille curieuse, pleine de surprises, mais qui un beau jour reçoit des moquets sur ses cheveux, crépus. Et donc va voir sa mère en lui disant qu'elle n'aime pas ses cheveux. Donc sa mère va lui demander pourquoi, et Adé va commencer à relater auprès de sa mère qu'elle entend sur ses cheveux plus souvent. Et donc sa mère va lui répondre, bon, tu n'aimes pas tes cheveux, mais je croyais pourtant que tu aimais les papillons. Alors Adé, surprise, lui dit, oui, j'aime les papillons noirs, mais quel est le rapport? Et donc sa mère va lui apprendre que de la même manière qu'elle aime les papillons, il faut qu'elle apprenne à aimer ses cheveux, en prenant soin, en apprenant à les coiffer. Et donc, Adé, qui va la prendre au mot, va commencer à s'occuper de ses cheveux avec l'aide de ses amis, de ses tantes et de sa mère, en espérant chaque fois que les papillons sortent de sa chevelure. Jusqu'au jour où elle va finir par avoir quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant que l'envol d'un million de papillons noirs.
Super. Et du coup, quel est le message que vous souhaitez faire passer en fait, auprès des enfants à travers cet ouvrage, à travers cette histoire-là? Qu'est-ce que vous voulez donner comme message?
Alors, en fait, c'est vraiment une histoire d'estime de soi, une histoire qui puisse déjà responsabiliser en fait, déjà les enfants sur le harcèlement scolaire, notamment aussi les moquets qu'on peut se recevoir en général. Et puis surtout, montrer que les cheveux crépus ne sont pas différents. C'est un type de cheveux comme un autre.
J'ai pu voir que vous avez fait de nombreuses interventions dans les écoles et ce que j'aurais aimé savoir, c'est le retour que vous avez lors de vos lectures auprès des enfants, mais aussi des parents et des enseignants, en fait.
Ah oui, alors en fait, le retour que j'ai la plupart du temps des enseignants, c'est vraiment que ça a leur faire de type pédagogique. C'est-à-dire que ça a vraiment permis de mettre en place des ateliers, par exemple, de création autour du cheveu crépus, de voir un petit peu déjà un autre type de visage de la littérature jeunesse. Que pour des parents qui souhaitent juste avoir une étagère qui soit vraiment le reflet de la société française, qui finalement répond à un manque dont tout le monde est conscient finalement.
Pour terminer, comment vous imaginez les héros de nos enfants demain?
Oh, grande question. ce sont des actes qui font vraiment le reflet de la société actuelle, la diversité mélanique, mais aussi sur des enfants avec un handicap, qui puissent être aussi des héros, que l'on puisse voir une réelle diversité qui serait finalement en fait une meilleure, une réelle représentation universelle. En fait.
Et qui nous fera un héros humain.
Voilà, et aussi qu'on puisse toujours avoir des histoires qui nous fassent rêver, et qu'on ait plus besoin finalement des clichés que l'on nous sert comme d'habitude.
Super, merci beaucoup Laurane Safou d'être intervenue dans 9 mètres carrés. Et bon courage pour votre dédicace.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà pourquoi je scande « Serais-je héroïne ?». Regardons la gueule de nos héros d'enfants. Ils sont blancs, les hommes sont méga forts, les femmes sont hypersensibles. Ceux qui sont noirs et arabes vivent forcément dans la jungle ou le désert du Sahara, mais ne vivent pas dans le 10e arrondissement de Paris, dans un immeuble. Comment un enfant noir, arabe, asiatique se construit-il sur des héros qui ne lui ressemblent pas ? Voilà, je vous conseille d'acheter ce livre pour enfants parce que même si voilà, on est étudiant et qu'on a environ 20 ans et qu'on est peut-être trop âgé pour lire un livre, toi t'as un peu plus de 20 ans Stéphane ?
Un peu plus.
Excuse-moi. Et ben, en tout cas, moi ce livre m'a redonné espoir sur les héros de demain. De parler d'utopie sans parler d'écologie. Je ne suis pas sûre que ce soit possible en 2018. Peut-être même que l'année 2018 marquera le pas d'une prise de conscience citoyenne, au-delà de juste regarder horrifié un mardi soir avec ses parents quand on a 12 ans, le documentaire de Yann Arthus Bertrand, Home. Et voilà, le mot Home tournait bien autour de cette question, ma terre et ma maison. Et Clémence, notre enragée de l'écologie, a fait le tour de la question, serais-je vraiment écolo demain ? Clémence.
Ouais, écologie. Plusieurs années déjà qu'on entend ce mot résonner à la télé, dans nos écouteurs, dans les discussions des repas de famille, enfin bref, un peu partout. Un mot, que dis-je ? Un gros mot, non ? Jusqu'à maintenant, on s'en foutait pas mal de la nature, c'était un truc d'hippie. Résultat des courses, mes enfants ne verront jamais d'éléphants. Et je ne sais même pas si je veux des enfants là-dedans, moi, pour qu'ils se prennent une fonte des glaces dans la gueule, non merci.
Tous les matins, quand je sors en ce moment, surtout le mois d'octobre, là, enfin celui-là qui nous inquiète, le premier sentiment que j'ai, il est 9h du matin et je me dis quel climat idéal pour prendre une bière. Et c'est pas normal, tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai vu un article, je sais pas si vous l'avez vu cet article, il a beaucoup tourné, c'est un article qui dit qu'à cause du réchauffement climatique, la bière va devenir vraiment très chère. Et c'est là qu'on voit où sont les priorités en France. Ça fait 5 ans qu'on répète à tout le monde que le réchauffement climatique, il va tous nous buter, on va mourir. Et tout le monde s'en fout globalement, et là on dit que la bière, elle va augmenter, j'ai vu des gens scandalisés. Ils étaient là, waouh ! Non mais là c'est un vrai problème, tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils sont là, mourir, ça me va, mais être sobre, non merci. Alors ça, jamais. Jamais, tu vois ce que je veux dire. Ils sont là, ils sont prêts à marcher pour le climat. C'est où la marche pour le climat? Envoyez-moi une trottinette, je vais arriver. En arrivant là-bas, je vais l'acheter n'importe où, parce que c'est ça le concept de la trottinette. On va kiffer, tout le monde pour la bière. C'est fou quand même. Mais je pense que là, il faut qu'on arrive à un moment donné où il faut qu'on soit plus dans la prévention. Le problème, il est trop grave. Là, on est dans la prévention, mais il faut être dans l'action collective. C'est la priorité, là. C'est grave. On nous dit des trucs qui font pas peur, en fait. C'est, on nous dit, il va faire chaud l'hiver. Dis-moi, tu me dis ça, j'achète demain, je signe où ? Il fait chaud, mais j'achète. Tous les hivers, j'essaie de me casser un endroit où il fait chaud.
Je suis donc née dans un monde où toutes les générations avant moi n'ont pas respecté notre lieu de vie. C'est un peu comme si on était coloc et que je me mettais à détruire notre appart. Donc tu me dirais...
Ce qui peut être le cas.
J'y arrive souvent ?
Non, pas du tout. Et tu dirais quand même que c'est très con, puisque j'y vis aussi, un peu égoïste quand même. Et c'est un peu ce que je ressens en grandissant, moi. Je n'ai rien demandé, j'aime ma terre, mais on m'engueule littéralement du matin au soir avec un discours moralisateur sur le fait que c'est clairement ma faute. Si bientôt on ne distingue plus l'été de l'hiver, alors on va se calmer. Je n'y suis pour rien, ma génération non plus d'ailleurs. Et pourtant, c'est quand même à nous de réparer des siècles de maltraitance. Et vu qu'on nous a plus appris à respecter nos professeurs que la nature, jeune adulte que je deviens, je vous avoue que je suis un peu perdue. Et en faisant mes petites recherches pour devenir une écologiste,
elle veut devenir un concept.
Ouais, carrément.
Et ben, je suis tombée sur Julien, le Messie, tu vois, il a créé son blog. Ça commence par moi. il y a 2 ans maintenant. Et merci Julien, ça devrait être lui, notre ministre de l'écologie, je crois. Julien a regroupé 365 actions écolo, une par jour, pendant 1 an, pour faire du bien à notre planète, ou en tout cas à nous apprendre à comment lui faire du bien. Et c'est surtout un vrai guide de l'apprenti écolo pour apprendre du coup comment faire. Et surtout, 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 il ne nous culpabilise pas. Donc j'ai rencontré Julien à la recyclerie, un endroit qu'on affectionne tous les deux particulièrement.
Parce que c'est un endroit que j'aime bien, c'est un endroit où on aborde des sujets d'éco-citoyenneté, mais à travers le beau, à travers le bon. Et c'est un peu la philosophie de ma démarche, parler de tout ce qu'on peut faire pour participer à la construction d'un monde meilleur, mais en s'amusant plutôt qu'en se faisant chier. J'ai eu l'occasion de vivre à l'étranger pendant longtemps et de constater dans ma vie les grands dérèglements climatiques et économiques de notre société libéralisée. Et en rentrant en France, je vois que tout le monde tire la gueule, qu'on consomme chaque année plus d'antidépresseurs et qu'il y a une grande quête de sens, de bonheur qui manque désespérément. La boussole de notre société, c'est le PIB. C'est terrible. Et je me refusais à rentrer dans ce moule-là. Et j'avais envie de me dire comment je peux donner du sens, comment je peux participer, moi, à la construction d'un monde meilleur. Pas forcément en passant par mon boulot, mais carrément dans toutes les facettes de mon quotidien. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, et si ça commençait par moi, et si ça commençait par accumuler plein d'alternatives éco-citoyennes dans toutes les facettes de ma vie. Puisque toutes les bonnes résolutions que j'ai jamais faites dans ma vie, je les ai tenues pendant 2 semaines grand max. Et voilà, je me suis dit, attends Julien, t'as 30 ans, essaie de enfin faire quelque chose de solide dans ta vie d'adulte. Et donc je me suis lancé un challenge de 365 actions en 1 an, au rythme donc d'une par jour. J'avais envie d'un truc un peu qui me fasse sortir de ma zone de confort et qui me mette tous les matins un bon coup de pied au cul, parce que en me mettant entre guillemets à nu sur internet, ça m'obligeait tous les jours à amener ma quête le plus loin possible et à pas tricher. Et ça me plaisait bien. Et j'en ai parlé donc du coup sur ce site internet, ça commence par moi.org, où je révolutionnais toutes les heures de mon quotidien, de ma consommation, à ma manière de m'habiller, de m'alimenter, de me chauffer, de me déplacer, de m'amuser, de me cultiver, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai ouvert en 2e année le site internet à d'autres personnes. On a 425 actions éco-citoyennes, donc il y en a énormément. Mais pour une jeunesse, on va dire, qui est plutôt connectée, j'ai tendance à dire qu'on peut commencer par faire des choses, par exemple, depuis son smartphone, en achetant un smartphone reconditionné, par exemple, en téléchargeant un moteur de recherche solidaire comme Ecosia ou Lilo, qui permet de planter des arbres ou de soutenir des associations. Ça, c'est des choses toutes simples. Et puis ensuite, petit challenge du quotidien, c'est peut-être se faire au moins une journée végétarienne par semaine. Et puis, si on veut derrière s'emballer un peu, faire son dentifrice, tu me fais le signe du dentifrice, on me souffle. Il y a plein de choses effectivement qu'on peut faire du côté déodorant. Moi je fais déodorant solide, cire pour les cheveux avec de la cire d'abeille et des huiles essentielles. Avec l'huile de coco, on peut faire son déo. Donc il y a plein de trucs à faire, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait ma réponse classique, c'est de dire peu importe en fait l'action par laquelle vous commencez. Le but du jeu, c'est de lier tout de suite dans le début de votre démarche le plaisir avec l'éco-citoyenneté, en commençant par quelque chose qui vous plaît. Si toi t'es fan de shopping, eh ben va plutôt du côté des recycleries, des friperies ou du côté du Made in France, tu vois. S'il y a des personnes qui adorent faire la cuisine, dans ce cas-là, ils tentent des nouvelles recettes du monde. On se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont végétariennes, etc., etc. L'idée, c'est pas tant l'efficacité dans l'action, c'est la continuité dans l'action et la construction de l'éco-citoyen dans la profondeur. En gros, tu vas pas dire à quelqu'un qui a jamais fait de sport, viens, on va se faire un marathon, parce que c'est très important que tu cours 42 km tout de suite là. Bah non, forcément le mec va être dégoûté, il va ranger ses chaussures de sport, il les ressortira plus jamais, au pire il sera même blessé. Donc c'est contre-productif. Là, l'idée, c'est de construire un éco-citoyen qui soit suffisamment solide pour que derrière il soit autonome et qu'il ait les bons réflexes pour tenir dans la durée. C'est ça en fait le truc clé. C'est pas de faire le maximum et puis de se rendre compte qu'on est face à une montagne de problèmes quasiment insolubles et qu'on se noie et qu'on abandonne. Non, le but du jeu, c'est d'y aller crescendo. Il y a Satish Kumar, qui est un penseur indien, qui dit que quand la situation est urgente, il est urgent de prendre le temps. C'est un peu l'idée. L'impact, c'est que depuis ces 365 actions, moi j'ai l'impression d'être un éco-citoyen accompli et de mieux comprendre les enjeux et qui sont complexes, hein, de notre société, de qu'est-ce que ça veut dire le dérèglement climatique et qu'est-ce qui se passe par rapport à la chute de la biodiversité, qu'est-ce qui est important dans le fait qu'il y ait autant de plastique dans les océans, comment on peut faire, comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qui est le plus important, le plus impactant, mais aussi comment du coup il faut qu'on reconditionne, réinvente notre manière de vivre ensemble. Et puis très très concrètement, j'ai quand même réussi en 1 an à diviser par 5 mon empreinte carbone, à diviser par 10 la taille de ma poubelle, et ça c'est non négligeable. En sachant qu'à côté de ça, et ça fait aussi toujours plaisir, j'ai réussi à faire 300 euros d'économie par mois. Et quand on commence à parler du porte-monnaie, en général, là, les gens, ils disent bah, « Attends, il y a un truc qui m'intéresse. » Je crois que c'est plutôt le fond, tu vois, la philosophie du moins mais mieux. Tu vois, c'est vraiment de se dire que nous, on a tout, trop, beaucoup, tout le temps, tout de suite, immédiatement, et qu'en fait, on normalise la surconsommation et l'abus de plaisir. Et en fait, du coup, on ne prend plus le temps d'être heureux. On est juste content d'accumuler. Alors qu'en fait, l'idée, c'est aussi de faire moins, mais mieux, d'avoir des objets moins nombreux, mais plus beaux, de privilégier la relation à l'autre, et aussi de prendre le temps d'être avec soi-même, de ne pas avoir peur de s'ennuyer, plutôt que de sortir son téléphone dès qu'on a 30 secondes devant nous. Ouais. Il y a des trucs qui peuvent sonner un peu philosophique, développement personnel à deux balles, et pourtant, en fait, c'est ça la question, c'est vraiment de se dire, mais arrêtons d'avoir et rentrons dans l'être, quoi. J'avais envie d'assumer ça, le fait de dire que c'était pas juste la bagarre du zéro déchet à celui qui aura le plus petit contenant rempli de déchets non recyclables. Non, l'idée c'est qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous et comment on fait des citoyens solide et heureux, quoi. Adjugé. Changeons le monde tout de suite. On lâche rien, bordel. On lâche rien.
Donc, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans les réponses de Julien. Moi, je le remercie parce que grâce à lui, je sais enfin par où commencer. Et je voudrais quand même rappeler une chose à ceux qui n'ont pas encore compris. La planète ne va jamais se réveiller en nous disant, les gars, je crois que là, je vais pas bien. Il va falloir s'occuper de moi. Il n'y a qu'à nous que cela va poser problème dans les années à venir. Donc, si cet argument un peu égoïste permet de faire avancer, je le maintiens. Alors maintenant, allez visiter le site de Julien, ça commence par moi. Il y a maintenant un livre qui est sorti. Ça parle spiritualité, écologie, solidarité et ça fait du bien. Le militaire William McRae a écrit « Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit ».
C'est beau. Ouais. On a vraiment des belles citations
ce podcast. On a bossé. Hein.
Et donc vous, vous avez commencé, si vous flippez comme moi, vous avez commencé à prendre des initiatives écologiques un peu ?
Ouais, alors ok, on va peut-être se moquer de moi, mais le hashtag on est prêt sur Instagram, ouais. Et ben en fait c'est hyper inspirant parce que on se rend pas compte. Enfin moi quand je regardais Home de Yann Arthus Bertrand, on se disait pas, enfin on voyait que c'était la merde, ouais. Et on savait pas quoi faire. Enfin il y avait pas, on nous expliquait pas forcément déjà. C'était oui, bah si vous mettez, si vous faites pas couler l'eau de la douche, oui mais d'accord, mais concrètement ça fait quoi, ouais. Et en fait on est prêt. Ce qu'ils ont fait, que je trouve super, c'est que déjà les influenceurs ont une communauté énorme. Bien et sûr. Une communauté jeune, donc ça sensibilise. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils expliquent, ton acte, la conséquence qu'il va avoir, la conséquence positive. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que aujourd'hui, j'ai, par exemple, le défi, c'était n'acheter rien en plastique. Pour l'instant, j'ai rien acheté avec du plastique. Et je me suis acheté ma première gourde.
Allez.
Et voilà, et c'est bien aussi, enfin, faut ce genre d'initiative, ok, c'est les influenceurs, etc. Mais c'est bien parce qu'au moins, ils trouvent les mots pour parler, en fait. Et c'est ça dont on a besoin. C'est pas juste, oui, c'est la merde, on va tous mourir. Il faut trouver des manières de dire les choses.
Esté, toi, je sais que tu laisses la lumière allumée.
Ah non, mais
chez
moi, je suis un neurosceptique. Je prends des bains alors que je ne vais même pas dans le bain. Je le fais couler. Je laisse les lumières chez moi. J'achète les produits avec le plus d'emballage.
Ouais, je sais.
Ah, bravo.
Je me bats avec.
En fait, grâce à toi, on va tous mourir. Quoi.
C'est ça. Bon, en même temps, vu comment on dépeint le monde depuis tout à l'heure. Non, mais bien sûr, on essaye tous. Mais ce qui est bien là-dedans, ouais, c'est que, en fait, on nous dit pas ce qu'il ne faut pas faire. On nous dit qu'est-ce que vous pourriez faire, en fait, les choix. On nous laisse le choix, donc c'est très bien.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Qui décidera de qui deviendrai-je ? Alors Esteban, grande c'est question. Toi qui conclus. Ça t'arrive souvent de conclure ici ?
Toutes les semaines. Ici ? Oui.
Merci, c'est très fin. Merci. Non, tu conclus donc dans 9 mètres carrés. Alors tu conclus peut-être dans des 9 mètres carrés, je ne sais pas. Mais
Laura, on a du public.
Oui, c'est vrai. Alors, en tout cas, tu nous as réservé une surprise. Peut-être que c'est ce que tu fais souvent, je ne sais pas. Une surprise, bah, tu t'es posé cette question. C'est Noël, exactement. Tous les jours de l'année, pendant 24 jours, le calendrier.
Donc on triple. Vas-y.
Qui décidera de qui deviendrai-je ?
Qui décidera de qui deviendrai-je ? Eh ben, c'est le grand débat du 21e siècle. La discussion de l'être, du jeu, du moi, le choix. La possibilité d'être indépendant de notre famille, de notre patron, de ce qui est supposé. La publicité nous apprend que nous sommes des individus donc rationnels, avec les comportements qui vont avec. Sinon, pourquoi en France, le financement de la publicité est passé de 2 700 millions
en 2012, donc à 3200 millions en 2017. En 5 ans, un demi-milliard d'augmentation dans le budget. L'explosion du dieu paraître s'est vue fortifiée par l'émergence des réseaux sociaux, vous l'attendez tous. Aujourd'hui, des influenceurs peuvent gagner des milliers d'euros pour quelques photos ou quelques tweets. La définition de leur métier revêt un aspect idéaliste que l'homme ne peut s'empêcher, depuis l'avènement de la technologie, de fantasmer. Aujourd'hui, tout notre environnement tend vers l'optimisation de nos capacités, voire leur facilitation. Mais il y a un piège. Derrière ces écrans, derrière ces connexions, il y a la matérialisation de quelqu'un. La personne que vous voyez sur votre fil d'actualité n'existe pas dans le monde matériel. Elle existe dans votre portable. Et oui, cet espace qui n'est qu'un monde adversatif, qui nous oppresse des heures durant et qui nous cajole sur ce qu'on aurait pu être si on n'était pas soi. Mais cette représentation publicitaire et ces photos continuellement retouchées ne sont pas réelles et avec un minimum de réflexion, on arrive à faire la différence. Mais après notre pic de dépression du dimanche soir, mais demain, quand on aura la possibilité de changer la couleur des yeux de votre enfant pas encore né, de lui retirer son droit d'être malade, de jouer avec ses facultés. Un musicien, bien sûr, un matheux, ben c'est fait, un grand sportif, deal. De le conditionner biologiquement avant même de lui imposer un conditionnement social qu'il ne remarquera même pas. Cet enfant de demain, c'est la publicité d'aujourd'hui.
Super, merci Esteban, j'avais dit en beauté. En fait, tu veux nous déprimer.
Il fait flipper.
Bah oui, voilà, écoutez, je suis à mon maximum là, de bonheur. Regarde, je souris.
Merci beaucoup. Bon, et bien, je crois qu'on a fait le tour de nos utopies concrètes. Et voilà, un nouvel épisode de 9 mètres carrés qui se termine. On s'est posé toutes les questions qu'on a pu, donc je crois que maintenant on va aller se réchauffer autour d'une bière à grain de contrôle.
L'alcool est dangereux pour la santé.
D'ailleurs, sur la terrasse, dehors, trône fièrement avec sa signature cette citation de Rutger Bregman, qu'il a signée cette année. Ce qu'il nous faut, ce sont des horizons alternatifs qui déclenchent l'imagination.
Mais on est des poètes ici.
Oui, et je vous laisse méditer sur cette belle utopie. N'hésitez pas à réagir sur l'émission, nous écrire des mails, partager votre concept de l'utopie concrète, ou tout simplement nous envoyer des photos de vos 9 mètres carrés sur notre compte Instagram Sorbonne. Et à bientôt pour un autre joyeux bordel.
Au revoir.
Au revoir.